partait de bon matin, quand on partait sur les chemins,
sur les chemins, sur les chemins,
à bicyclette,
à bicyclette,
à bicyclette. Nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission favorite. Il est l'heure, Monseigneur. Alors aujourd'hui, on n'est pas l'équipe au complet. Il va manquer Ricardo. Voilà, désolé Ricardo, ce sera pour la prochaine fois. Mais je suis avec Marc. Bonjour Marc.
Bonjour à vous.
Bonjour Josiane.
Salut.
Et bonjour Jean-Marc. Bonjour. Jean-Jacques, oh là là, j'ai voulu les mélanger tous les deux, désolé.
Bonjour, bonjour.
Alors, comme à l'accoutumée, on a une année mystère à découvrir cette semaine, et je vous propose pour la découvrir de passer tout de suite le premier morceau de musique de l'année mystère en question. Il s'agit de Un petit peu d'amour. Vous ne la connaîtrez pas forcément tous, mais voilà, c'est une du grand monsieur Eddy. À tout de suite.
Avec un petit peu d'amour, ton esprit, ton corps étaient de paix. Tu voyais tout sous un nouveau jour, sur le simple fait d'être aimé. Mais recevoir, c'est savoir donner, rester humble puis se sacrifier. Découvrir que la trahison débute par l'amour ou l'amitié. Mais t'as brûlé toute ta vie en petit matin, en blanche nuit. Trop tard pour regretter le passé. Demi-frère, presque un sosie. À quoi bon remuer le passé? Juste avec un petit peu d'amour, tu croyais pouvoir être sauvé. De l'icône aimée adulée, t'as tout connu, tout traversé. Juste avec un petit peu d'amour, être adoré, parfois se tromper. Découvrir que la trahison commence par l'amour ou l'amitié. C'est pas faute de ne pas t'avoir prévenu. T'as rien écouté, t'as voulu toujours te surpasser. Petit matin en blanche nuit, trop tard pour regretter le passé. Pour moi, t'étais plus qu'un ami, un demi-frère, presque un sosie. À quoi bon remuer passé. Avec un peu d'amour,
c'était donc le grand monsieur Eddie avec un petit peu d'amour. On a un silence presque religieux dans le studio, Jean-Jacques, Josiane et Marc. Ça vous inspire quoi?
Bah, c'est d'abord, ils chantent toujours aussi bien. Hein, je veux dire que je trouve que vraiment ça a la classe quoi. Et puis en plus, bon, le sujet là,
c'est... Il y a beaucoup de profondeur, beaucoup de sens, c'est poétique. Je trouve ça formidable, quoi.
Bon,
il a dû faire les paroles aussi. La musique, c'est qui? Enfin, je sais pas, j'ai pas trop regardé.
Ah là, je vais pas rentrer dans la technique parce que
général, la musique, c'est Papa Diamandis. Et puis les paroles, c'est lui, quoi. Mmh. Et quand c'était des reprises, souvent que c'était lui qui faisait les textes.
Mmh. Bon.
Donc ça doit être lui parce que là, le sujet, c'est ça le concerne
très,
directement.
Très intime. Mmh.
Mmh. Bon. Et sur cette année mystère, alors.
Ah non, je ne dirai pas.
on va pas le dire immédiatement.
Non. D'abord, c'est trop loin pour moi.
Alors. La chanson, forcément, elle va en aider certains. Hein. Voilà, et j'irai pas jusqu'à dire qu'elle est d'actualité, mais presque. Un petit peu d'amour, on en a tous besoin en ce moment. Moi, j'ai pas retenu grand-chose de l'année mystère parce qu'on voudrait la voir partir au plus vite.
Dans les oubliettes.
Voilà, mais moi, le fait marquant que j'ai noté, c'est le tourisme spatial. Mmh. Voilà, on fait du tourisme spatial maintenant, comme et si notre planète n'était pas suffisamment jolie.
Et à quel prix?
Bon, Josiane, moi je t'enverrai pas là-haut personnellement.
De toute façon, j'irai pas.
Là, on trouve les sous pour ça. Hein.
Faudrait vraiment me foutre dans la soute à bagages et enfermer.
Je sais pas si c'est le meilleur endroit en même temps.
Non, je comprends qu'il y en a que ça fasse envie, mais il faut avoir les moyens.
Oui, il faut avoir beaucoup de sous quand même. Hein.
Surtout, c'est tout cet argent dépensé. Pourquoi? Est-ce que vraiment c'est nécessaire?
Alors,
surtout à l'époque où on
est. Il y a plein d'autres choses, justement. À travers cette année mystère, je trouve que nous avons été invités à faire la part entre ce qui est vraiment l'essentiel et ce qui est le superflu. Ouais.
Là, c'est le summum. Du superflu.
Repositionne ton micro vers le bas, Josiane, peut-être.
Ouais.
Parce que si j'ai bien compris, tu t'en vas et puis tu redescends. Quoi. Et tu fais rien d'autre sauf que d'apprécier le truc et d'avoir payé.
Mais tu as fait quelque chose que peu de gens vont faire. Donc, voilà.
C'est vrai.
Une manière de se démarquer, de faire plus que les autres.
Tu évolues en apesanteur.
Cela dit, l'année mystère, là, je reviens à ce que tu disais, Josiane. Je suis d'accord avec toi, c'est une année riche quand même, une année riche de pause, parce qu'on s'est posé en fait, les circonstances ont fait qu'on s'est posé, on s'est reposé, puis on s'est posé des questions, je pense que c'est ça qui... Et des questions de sens, de sa vie, je vois autour de moi des gens qui des jeunes par exemple, qui ont changé de boulot, et de manière très, très, très à l'écart de ce qu'ils avaient au départ, Et bon, c'est parce qu'ils se sont posés des questions ils ont vu la vie peut-être différemment. Et je pense que c'est justement dans cette vie un peu effrénée que nous avons, ça a été l'occasion de s'arrêter. Et pour se poser les bonnes questions, il faut du temps. Il faut un temps long, quoi. On peut pas le faire dans l'urgence permanente.
Déjà, il y a la prise de conscience. Et puis, il faut laisser le travail se faire.
Bien dans le micro, Josiane.
Et en règle générale, t'es pas tout seul.
Bien sûr.
T'as la famille, t'as les enfants, t'as tout un tas de choses. Quitter une cité urbaine pour aller s'installer en pleine campagne, élever des chèvres, des patatis, des patatas, il faut que toute la famille soit d'accord.
Qu'est-ce que ça peut être, cette année mystère?
Alors, j'avais marqué mystère. J'avais marqué année à oublier, puis j'ai mis à côté non, parce que justement, il y a plein de choses. Hein. De la solidarité. Moi, j'habite dans un tout petit immeuble, donc pas beaucoup de locataires. On se croisait à la boîte aux lettres, bonjour, bonsoir. Et bien, cette année, on a eu des personnes plus jeunes qui venaient frapper à nos portes en disant « Je vais faire des courses, est-ce que vous voulez que je vous rapporte quelque chose ?» et tout ça. Ce qui n'arrivait pas, quoi.
Donc ça existe vraiment.
Oui.
C'est pas une légende.
Non.
Bien.
J'espère que ça va continuer.
On espère tous effectivement que le meilleur va s'illustrer. Maintenant, c'est vrai que dans la course du quotidien, je rejoins ce que disait Marc, la tête dans le guidon, on se pose pas suffisamment de questions. Et de mettre du sens un petit peu à nos actes de la vie quotidienne, c'est important. Je vous propose de passer le deuxième morceau pour se libérer du temps pour la suite, hein, pour nos différentes chroniques. Alors, il s'agit d'une artiste que vous connaissez peut-être un peu moins, il s'agit de Zaz, avec la chanson
J'adore.
Et le reste. À tout de suite.
Pardonneront-ils pour ce qu'on leur laisse? Connaîtront-ils comme nos l'ivresse, les enfants qu'on laissera ici-bas? Que feront-ils de ce qu'on leur lègue, de ce monde qu'on a pris pour test? Sauront-ils y refleurer la joie pour l'amour, la tendresse et le reste? Qu'a-t-on fait pour que tout cela cesse? Diable de géant, de paresse, pourquoi n'avons-nous pas fait comme toi? Toi qui donnes pour la beauté du geste, oh comme trois pommes tu vises l'Everest. Et je sais que tu y arriveras pour l'amour, la tendresse et le reste. Une vie à chercher la justesse, pour une justice à deux vitesses, tant d'amertume, de colère en moi. J'ai beau sourire, y a comme un malaise, vivre c'est marcher sur les braises. Des bleus à l'âme j'en ai, mais j'y crois pour l'amour, la tendresse et le reste. Se couvrir de médailles, nos souvenirs sont représailles. Qui pourra dire qu'il ne savait pas? Puisqu'ici le monde tourne à l'envers, je peux en compter les revers. J'aimerais tant réécrire tout cela pour l'amour, la tendresse et le reste. Pardonne-moi de n'avoir pu faire plus. Je ne descends pas au terminus et le voyage se poursuit sans moi. Puisse-t-il être doux comme une caresse? Et si je sais que mes mots blessent, j'espère qu'un jour on se retrouvera pour l'amour, la tendresse et le reste.
Et voilà, c'était Zaz, tout en douceur, avec la chanson et le reste.
Et une chanson qui est sortie l'année mystère, c'est ça?
Oui, c'est ça.
D'accord.
Voilà. Ou du moins l'interprétation est de cette année mystère. Voilà.
Alors moi, dans différentes choses que l'on m'a dit, parce que j'ai essayé, n'est-ce pas, étant donné qu'on était confinés, de beaucoup joindre des personnes par téléphone, par mail et tout ça. Et beaucoup m'ont dit qu'ils ont redécouvert la nature. Les petites balades d'une heure à un kilomètre de chez soi. Donc, comme ça, la nature, les oiseaux. Voilà.
Oui, je pense qu'on retrouve ça aussi au niveau des vacances. C'est-à-dire que les Français, ils ont redécouvert la France. La France de la campagne, la France de la mer. Tous les indicateurs des campings et des hôtels le disent. Ils n'ont jamais fait une saison comme ça, parce que c'était justement... les Français sont restés en France et ça, c'est quand même un fait marquant de cette année.
Après, Marc, il me semble qu'ils sont restés en France pour des mauvaises raisons, c'est-à-dire plutôt pour des raisons économiques. C'est-à-dire que s'ils partaient à l'étranger, pour certains d'entre eux, c'est parce que parfois ça leur semblait moins cher qu'en France.
Oui, ou alors t'étais à l'arrivée, t'avais 40 jours.
Il y avait des contraintes. Il y avait des contraintes, ouais, qui pouvaient peser la peur de ces contraintes. Ouais. Mais voilà, ils ont découvert, ils ont redécouvert aussi, ils ont réfléchi sur la manière de se nourrir. C'était un moment fort aussi.
Tout à fait. Les produits locaux.
Les produits locaux. Ils ont découvert que les agriculteurs, c'est eux les producteurs. Et donc, s'ils sont pas loin, on peut utiliser des produits peut-être moins. Où on partage la valeur,
on
comme ils disent maintenant.
On est obligé de manger des fraises à Noël.
Hein. Voilà, c'est ça. Et puis des produits peut-être plus sains.
Bon, puis personnellement, moi, la chauve-souris ou le pangolin en pâté, j'aime pas trop. Hein.
c'est sûr.
Remarque, ce serait une excellente façon de se venger en bouffant des pangolins.
Mais bon, je pense que c'est un moment important à ce niveau-là. Et même, il y a aussi, je trouve qu'ils ont redécouvert aussi leurs fonctionnaires, les services publics. Hein. On en a vu à travers la santé, mais peut-être pas que. Hein, on s'est rendu compte que dans d'autres domaines, ils sont utiles et puis ils servent à quelque chose. Et moi, je pense que les fonctionnaires, c'est facile de les critiquer, mais c'est un peu comme l'air qu'on respire. C'est quand on n'a plus d'air, on se rend compte qu'on en a besoin. Et d'une manière, je dirais, dans le quotidien. Donc,
il ne suffit pas de les applaudir sur nos balcons.
Après, il me semble que ça devrait aussi nous renvoyer à notre sentiment d'utilité sociale, tous les uns et les autres.
Bien sûr. Hein.
Ouais. Aujourd'hui, il faut de tout pour faire un monde. Et effectivement, je pense que les services publics, quand ils nous manquent, c'est là qu'on s'aperçoit qu'ils sont tellement précieux. Et donc, pour parler ne serait-ce que des hôpitaux, effectivement, ils ont été submergés dans cette année mystère. Ils en ont souffert et je crois qu'ils ont encore des stigmates. Aujourd'hui, c'est notre responsabilité à tous d'essayer d'éviter de renouveler l'expérience. Quoi.
Alors, c'est vrai que plutôt que d'aller dans l'espace, il ferait mieux de financer ceux qui ont les pieds sur terre.
Pour revenir à la conquête spatiale, je crois que malgré tout, ça a aidé à faire progresser certaines choses sur Terre.
Enfin,
je pense à
la médecine.
La filtration de l'eau, il y a quand même des choses utiles.
Ce que tu abordes, c'est les vols officiels, les vols qui ont vraiment un but scientifique.
Mm-hmm. Et puis il y en a d'autres, c'est un but
touristique. Là, c'est différent. Mm-hmm.
Oui, être le premier à faire ce truc-là. Mm-hmm. Quoi,
c'est pas la même chose. Il y en a eu.
Bon, après, je suppose que quand on est disposé à payer, je ne sais plus les tarifs, mais c'était combien, plus de 100 millions de dollars. Enfin, c'était indécent pour nous, mais pour eux, c'est tellement ridicule. J'ose espérer qu'ils n'auront pas financé que leur propre voyage, mais financé bien d'autres projets. Quoi. Quel autre indice vous vouliez donner sur l'année mystère ?
Il y a les Jeux, quand même, les Jeux Olympiques. C'est quand même... Un peu décalé, mais quand même la plus grande manifestation sportive au monde, avec la Coupe du Monde de football. Donc, où les Français ont brillé, parce que les Français ont brillé notamment dans le jeu d'équipe, puisqu'on a eu des médailles d'or. On a eu des médailles d'or en volley, en handball masculin et féminin, si je ne me trompe pas. Et puis en basket, on a eu argent et bronze, je pense, pour les filles, pour les bronzes. Donc c'était quand même une belle moisson. Chapeau, les sportifs français.
Et qui plus est, dans ces circonstances, de faire des performances, c'est encore moins facile. Bon, l'avantage, c'est que toutes les athlètes sont à égalité devant les conditions, mais ils en sont pas moins méritants, quoi.
Alors moi, j'ai entendu dire aussi que beaucoup de personnes ont profité de ces moments-là pour lire. On avait perdu un peu l'habitude de lire. Donc, relire les bouquins de notre bibliothèque qu'on avait oubliés depuis un moment. Et puis, aller connaître de nouveaux auteurs. Il y a eu pas mal de personnes qui m'ont dit on a beaucoup lu.
Alors, pour rebondir sur la lecture... Moi, pour ces années mystères, parce que, il y a une année mystère, mais il y en a une autre aussi, parce que c'est sur deux ans. Hein. On termine.
Tu voudrais dire qu'il y en a une qui succède à l'autre.
Et comme disait ma petite nièce, disait J'ai pas fini.
Mais pour reparler de la lecture, moi, j'ai découvert les fameux nids d'abeilles, là où il y a dans les communes où il y a des livres à disposition.
Les boîtes à livres.
C'est extraordinaire.
Je
trouve ça formidable.
Et franchement,
et d'ailleurs, moi, évidemment, j'ai regardé parce que je me suis dit, j'ai des bouquins chez moi. Bon, pas forcément les garder. J'en ai mis parce que et c'est pas par générosité, mais je trouve que c'est tellement
une bonne idée.
Ça c'est
une très bonne idée.
Ça c'est un bon truc.
Et j'avoue que quand je repasse et que je regarde, je dis, ah ils sont partis.
Oui. Non, mais ils reviennent. Et c'est là où je dis, je dis que il y a un respect parce que je veux dire que je vois des bouquins, je passe parce que je passe systématiquement devant ce fameux et je vois des livres que je connais ou les miens. Puis deux semaines après, ils sont de retour. Alors, donc, on les emprunte, mais on les rend.
Quelles ont été vos lectures, alors, cette année?
Alors, moi, j'ai surtout relu des bouquins anciens. Alors, attends, le nom, j'en ai tellement relu qu'il n'y a pas de titre qui me revient. Oh, ben, je suis retombée dans les Balzac, Victor Hugo, tout ça que j'avais oublié. Alors, j'avoue que Notre-Dame de Paris, il y a quand même eu des chapitres que j'ai passés, hein, parce que c'est quand même... non, mais anciens. Et tout ça, vraiment.
Marc, tu as eu des lectures particulières?
Moi, je m'intéresse surtout à des bouquins de réflexion. Donc, moi, j'ai lu, par exemple, Eckhart Tolle, je ne sais pas si certains connaissent, c'est quelqu'un qui a réfléchi sur le sens de la vie, justement, qui est à recommander, parce que vraiment, il est très intéressant, il a fait plusieurs livres sur le côté réflexion de la manière de vivre pour être bien dans sa peau.
Du développement personnel.
J'ai lu ça, autrement, j'ai lu... je suis en train de lire un best-seller là de Kenneth, je ne retiens pas trop les noms, mais qui a fait qui est mondialement connu, qui a fait plusieurs bouquins et qui là c'est un bouquin sur
Ken Follett,
c'est ça. Merci, Jean-Jacques. C'est la fin des géants ou un nom comme ça. C'est très intéressant parce que ça permet de revisiter l'histoire du monde. Là, c'est l'histoire de la Première Guerre mondiale avec toutes ses conséquences. Il met des acteurs russes, américains qui se croisent et ça donne à mieux voir au plus près ce qui s'est passé à ces moments-là, à la fois sur les champs de bataille, mais aussi sur les champs diplomatiques, et puis sur comment ça impacte la relation des gens sur le plan sentimental, sur le plan de la vie. Et c'est une manière de revisiter l'histoire à travers la saga de personnes. Et ça, je trouve ça c'est super intéressant.
Bon, ça, c'est un nouvel élément qui nous éclaire parce que c'est bien sorti cette année mystère.
Jean-Jacques, tu as eu des lectures?
J'ai évité encore.
T'as des lectures particulières cette année?
Non, je lis un peu de tout. Là, ce que je conseille quand même de lire, et j'ai eu la chance de le rencontrer, c'était le dernier livre d'Hervé Bazin. Hervé Bazin, qui doit être enterré chez Et moi, je l'avais rencontré, et il avait fait même signer, on avait même discuté, parce que ma femme avait le même prénom que sa fille, donc c'était assez sympa, quoi. Il avait fait une séance de dédicace là, vers le boulevard Foch, et je vais te dire qu'il a fait un dernier bouquin, c'est une sorte de bouquin de science-fiction. C'est bien foutu, hein, c'est vraiment bien. C'est bien Hervé Bazin. Quand on le relit, c'est plutôt simple.
Quel est le titre de ce bouquin?
Je suis désolé, je pense que... Mais c'est son dernier.
C'est le dernier, d'accord.
Et c'est un truc d'anticipation, vraiment.
Écoute, je vais être client alors. Moi, j'ai lu quelques ouvrages de science-fiction cette année que je recommande. Et je rejoins Marc, il y a un peu de développement personnel dans tous ces ouvrages, parce que finalement, à imaginer le futur, on repense le présent.
C'est sûr.
Et j'ai lu L'Anomalie, j'ai oublié l'auteur, mais c'est le dernier prix Goncourt de l'année antérieure. J'ai lu Impact, qui était un thriller écologiste, je l'appellerai comme ça. Et le dernier, les Furtifs d'Alain Damasio, où là on comprend rien la moitié du livre, mais... En fait, quand on change de logiciel, on s'aperçoit qu'on peut penser tout à fait différemment. Et c'est étonnant comment on peut finalement, avec notre culture, passer à autre chose. Donc, c'est vraiment...
Ça, c'est intéressant. Et ça me fait penser à un bouquin que j'avais lu de M. De Bono. C'est un pédagogue, quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la pensée, comment penser. Et j'avais retenu une de ses thèmes favoris, enfin dans son analyse, c'était de dire la pensée, c'est d'abord un déplacement. C'est ça la pensée. La pensée, c'est quitter l'autoroute dans laquelle on est pour aller sur une voie d'à côté. Et c'est là qu'on arrive justement à trouver d'autres choses, d'autres références.
Oui, sortir de son petit confort.
Sortir de ce qui nous construit. c'est s'écarter, et à ce moment-là, on trouve autre chose. Et ça, même dans le quotidien, on le vit, hein, je peux vous dire, quand, tu vois, on se lève le matin, on a le cerveau a fonctionné, puis tout, on s'est décalé, et on trouve une solution qu'on n'avait pas trouvée au départ, ou sur laquelle on était enfermé. Quoi. La pensée est un déplacement. Ouais. Monsieur De Bono. Ouais.
À découvrir aussi, alors. Bon, on a un peu entamé sur les chroniques littéraires de nos émissions de Radio G, quand même. Hein. Je vous propose de faire une troisième pause musicale. On va écouter un homme que j'aime particulièrement, c'est Bernard Lavilliers.
C'est rassurant, parce qu'il n'y a pas que les vieux qui ont des trous de mémoire. Hein.
Bernard Lavilliers avec Le cœur du monde. On se dit à tout de suite.
J'entends le cœur du monde battre de plus en plus fort, celui des multitudes et de la solitude. Le croise de plus en plus la haine, la peur, la mort. C'est presque une attitude, ça devient l'habitude. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme, alors viendra le compte à rebours sur ses désirs brûlés, sur ses désirs brûlés. La tête du dictateur, la tête du fusilleur, toujours en embuscade dans les rues de Bagdad. Si la démocratie peut tomber en 10 heures, si les banques surnagent attendant le naufrage, alors nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme. Tu ne pourras plus faire demi-tour, enchaîner, 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 enchaîner. Après la guerre, on est dans l'entre-deux. On attend la prochaine, la dernière, la certaine. La guerre économique, au fond, c'est pas sérieux. Faudra bien que ça saigne des milliards, des centaines. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme, alors viendra le compte à rebours sur ses désirs. Alors viendra le compte à rebours sur ses désirs brûlés, sur ses désirs brûlés.
Donc c'était donc Bernard Lavilliers avec Le cœur du monde. Marc, pendant la chanson, tu avais une citation que je trouve intéressante pour faire la transition avec notre pour ou contre du jour. Est-ce que tu peux nous la nommer, cette citation ?
Oui, c'est une citation que m'a inspiré un peu le moment que l'on vit actuellement. Et elle est de Sylvain Tesson, donc écrivain voyageur, d'après ce que disait Jean-Jacques. « La France est un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer. » Bon. Voilà, voilà la citation.
Alors, si on changeait cet enfer pour en faire un vrai paradis, l'année prochaine, 2022, c'est une période d'élection présidentielle. Alors déjà, on peut rappeler à nos auditeurs que si vous n'êtes pas inscrit sur les listes électorales, il est encore temps de le faire. Aujourd'hui, le pour ou contre, c'est l'obligation de vote. Est-ce que les uns et les autres, vous avez aujourd'hui un avis tranché sur la question, et comment on peut entendre ou ne pas accepter cette idée d'obligation de vote?
Alors moi, il y a déjà quelque chose. Obligation de s'inscrire, une chose. Obligation de vote, c'est autre chose.
C'est vrai. C'est important de faire la distinction, parce qu'effectivement, une fois qu'on est inscrit, quelque part, c'est qu'on a déjà l'intention.
Voilà. Puis après, il y a d'autres choses. Je redisais tout à l'heure, entre les élections locales et les élections nationales, on n'a peut-être pas beaucoup de poids au niveau national, mais par contre, je pense notamment aux jeunes qui s'inscrivent dans les conseils municipaux, dans les choses, c'est important qu'ils fassent entendre la voix de la jeunesse pour, comme tu disais là tout à l'heure, nous asticoter un petit peu, nous faire changer de nos routines, voir des choses qu'on ne voit pas habituellement. Moi, je trouve que c'est important.
Moi, je pense que cette question-là, je me la suis posée, et je me suis dit, moi, finalement, d'où je viens, ce dont j'ai bénéficié à l'école et dans ma famille, pour moi, le vote, mais on ne peut pas ne pas voter. Enfin, ça me paraît tellement important, d'autant plus que je me dis, si je ne vote pas, de toute façon, il y aura un pouvoir politique. Il y aura un pouvoir qui va sortir. Que ce soit un pouvoir au niveau d'une mairie, ou au niveau d'une région, ou du niveau de la France. Donc, c'est quelque part, ne pas voter, c'est laisser les autres penser pour vous. Enfin, voilà. Et puis derrière, il y aura toujours un pouvoir, quel qu'il soit. Hein. Alors, moi je serais plutôt contre l'obligation, mais par contre, je pense que les personnes, les jeunes, les moins jeunes, on est traversé par l'idée qu'on veut plus de participer à la chose publique. Alors, souvent, ça se traduit par un engagement dans une association, etc. Mais je pense que il faut que les politiques au sens large organisent plus la sensibilisation, l'explication, non seulement le comment il faut comment il faut voter, mais pourquoi il faut voter. Et ça, il faut développer ça. Voilà, parce que bon, l'obligation derrière, qui dit obligation dit sanction. Quel type de sanction? C'est pas évident. Financière, c'est pas possible. Droits civiques, suppression des droits civiques, c'est pas non plus.
Si on observe chez nos voisins en Belgique, en Suisse, oui. Et là je demanderai vérification, mais peut-être au Luxembourg, les gens qui ne vont pas voter ont une amende. J'ai envie de dire, cette amende aujourd'hui, elle est facile à mettre en œuvre, et libre à chacun effectivement de ne pas contribuer à la décision nationale. Voilà. En revanche, moi, je ne peux pas en France distinguer l'idée du vote avec l'expression. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'an prochain, en 2022, on va avoir un président élu à la majorité des suffrages exprimés.
Oui.
Et pour autant, il aura réellement conquis à peine un Français sur quatre au premier tour. Donc, pourquoi pas mettre en obligation le vote? Mais à ce moment-là, il faut comptabiliser les abstentionnistes, il faut comptabiliser le vote blanc. Et puis, quelque part, si derrière, on relativise la légitimité d'un pouvoir, peut-être que c'est un moyen d'introduire de la proportionnelle.
Alors, si je dois rebondir sur tout, je rebondis toujours, moi.
Bong.
Mais je tape pas sur la table.
Pas aujourd'hui.
Non, c'est vrai. Je dis que l'obligation, mais offrir une autre possibilité quand on vote, parce que je veux dire, le problème, les gens, c'est quoi? Je vais pas voter parce qu'il y en a aucun qui me plaît, ou il y a et je trouve que c'est vrai qu'on ne tient pas assez compte des personnes qui ne sont pas satisfaites de la proposition qu'on leur fait. Voilà, que ça soit deux candidats, que ça soit un oui ou un non, enfin voilà, je veux dire, il faut qu'il y ait, alors c'est pour ça que je rebondis sur ce que tu disais, on ne reconnaît pas le vote blanc, on reconnaît, enfin c'est assez bizarre quoi, c'est le bon, le nul, évidemment si on fait un petit truc et tout ça, ça devient nul. Je trouve que il faudrait qu'on revoie un petit peu pour chaque scrutin les possibilités qu'ont les gens quand ils votent, quand ils vont se déplacer, qui soient reconnus.
Tout à fait. Et moi je pense quand même que il faut quand même s'interroger. La question pour ou contre, voilà, elle nous interroge sur qu'est-ce qui fait que les gens ne vont plus voter. C'est ça la question. Et moi je pense que les gens, certains ont l'impression, alors je ne peux pas dire dans le détail si c'est des jeunes, des moins jeunes, etc., mais ont l'impression que une fois qu'ils ont voté, ils n'ont plus prise sur les événements. Mmh. Et je pense que pour l'avoir vécu dans un contexte, le fait de s'intéresser à la chose publique, c'est-à-dire que les politiques organisent les choses pour qu'on puisse, en dehors des élections, participer à des débats, être reconnu, apporter des idées, ça peut forger en quelque sorte une éducation citoyenne qui développera l'idée de ce qu'est l'importance du vote, parce que c'est ça la question. C'est pas, bien sûr on peut voter par internet, on peut aussi proposer de voter par internet, faciliter les conditions, mais c'est quand même dans le format actuel, c'est quand même pas dur de se déplacer pendant un quart d'heure ou un quart d'heure un peu plus, mais maximum, pour aller poser son bulletin de vote dans l'urne. Donc c'est pas ça la difficulté, c'est que les gens refusent finalement le vote. Et il faut s'attaquer à ça. Et je pense que par l'enseignement, l'éducation, l'explication, donner la possibilité de participer, je pense qu'on peut améliorer ça.
Mais déjà dans les classes, les conseils de classe, les choses comme ça, c'est vraiment déjà important parce que c'est une entrée ma voix vaut quelque chose.
Quoi. Voilà, c'est ça.
Je peux me faire entendre.
Et ça compte. Et puis finalement, ça va entraîner derrière des décisions politiques. C'est-à-dire que les politiques, une fois élus, ils prennent des décisions.
Il n'y avait pas des conseils municipaux qui avaient ouvert à des jeunes étudiants des choses comme ça? Je trouvais que c'était une bonne...
Oui. Alors, dans la commune où je réside, il y a un conseil municipal des enfants. Voilà, et donc, les enfants de CM1 et CM2 ont un petit conseil. Ils sont une trentaine, je crois. Et ils ont décidé de réaliser des projets sur la commune sur lesquels le conseil municipal officiel a donné suite. Et exemple d'une boîte à livres dans ma commune. Donc on a effectivement une ouverture, et cette éducation-là, effectivement, elle est utile, indispensable pour les générations futures.
Oui. Et j'arrive à me poser la question, si par hasard on faisait un référendum, si on leur disait vote obligatoire ou alors interdiction de voter, maintenant ça sera directement, de toute façon, les gens qui sont élus, parce que là, non mais attends, ce que je veux dire, c'est que j'essaye de réfléchir en ce moment, les gens, il y a des gens qui ont refusé les choses.
Oui.
Est-ce qu'ils ont voté?
Mais oui.
Je ne sais pas.
La question.
Parce que non, mais il y en a qui n'ont pas voté et qui refusent quand même. Donc je veux dire, je comprends pas le truc. Je veux dire, si tu avais voté, je veux dire, tu refuses tout.
C'était ce que je disais à Raphaël en venant. Dans ma carrière professionnelle, je rencontrais un certain nombre de gens. Et alors qu'ils me cassaient du sucre sur le dos, pas à moi, mais aux élus ou autres. Et je disais, mais vous avez voté? Non, bah alors vous avez le droit de vous taire. Hein.
ça cloue un peu la discussion, mais bon.
C'est vrai.
Et donc, au final, on s'orienterait vers un changement de république, au final. Allez, si on était quatre à décider aujourd'hui autour de la table.
Alors, bon, la sixième, j'en sais rien, je sais pas. Difficile. Non, mais de toute façon, on peut pas avoir la pensée.
Non, mais j'y crois pas. Hein.
Alors, est-ce que les gens se déplaçaient plus pour un référendum où t'as une question bien précise et tu réponds oui ou non? Est-ce que ça incite plus à se déplacer.
C'était quoi? Alors, il y a eu le référendum de Gaulle, oui. Bien sûr, qui a d'ailleurs la conséquence de son départ.
Oui, il est parti.
Parce qu'ils ont dit non.
Oui.
C'était par rapport à la nationalisation. Hein. Mais
en 92, j'ai souvenir d'avoir voté pour ou contre l'Europe.
Par rapport à l'Europe, c'est
par rapport
ça.
Aussi, c'était ça.
Et le fait est que, sauf erreur de ma part, l'opinion publique n'a pas été suivie.
Respectée.
Oui. Et ça, ça, ça a été. C'est,
bah oui,
c'est,
on fait un référendum, il faut accepter le
scrutin. C'était lourd de conséquences dans les consciences des gens.
Ouais, c'est vrai. Ça a discrédité quelque part un peu la parole politique. C'est-à-dire que demander l'avis des citoyens et ne pas en tenir compte.
Bon,
je pense qu'à partir de 92, il y en a qui se sont décidés, je ne vote plus.
C'est épouvantable.
C'est probable.
Et là, encore une petite phrase qui m'inspire notre réflexion, c'est-à-dire la vérité d'un homme politique, on la trouve dans ses actes.
Oui, tout à fait.
C'est pas uniquement dans ses discours. Et voilà.
Mesdames, messieurs, les dirigeants, à bon entendeur, salut. On va faire une nouvelle petite pause musicale et on va honorer une grande dame qui a été panthéonisée, si ça vous parle, dans l'année mystère. Donc on va la dévoiler après, il n'y aura plus de mystère.
Au-delà des mers, là-bas sur le ciel clair, il existe une cité où séjour enchanté. Et sur les grands arbres noirs, chaque soir, vers elle s'en va tout mon espoir. J'ai deux amours. Ma savane est belle, mais à quoi bon nier ce qui m'ensorcelle, c'est Paris, Paris tout entier. Le voir un jour, c'est mon rêve joli.
On a digressé un petit peu pendant la chanson de Josephine Baker, J'ai deux amours. Bon, je vois que les présidentielles animent le studio et effectivement, on attend beaucoup de l'élection à venir. Bon, on va passer à une chronique plus musicale. Jean-Jacques.
Finalement, toujours de la même année.
Alors, on va révéler l'année.
Oui, hein, oui parce que moi, je commence comme ça. Alors.
Eh ben, écoute, on te laisse
vas-y,
annoncer.
Voilà.
Allez, vas-y, la grande
alors,
annonce.
Oh, pour cette année 2021, j'ai choisi de ne pas parler de chansons ou de morceaux de musique de 2021. En fait, je vais m'attacher à ce qui m'a aussi touché cette année, et par des liens improbables et pas sans importance pour moi. Deux grands chanteurs auraient eu 100 ans en 2021. Brassens, tout d'abord, décédé en 1981 à l'âge de 70 ans, il y a donc exactement 40 ans. Et ma chanson d'aujourd'hui est musicalement très fouillée, comme le texte, un poème de Antoine Paul, qu'on ne connaît pas trop d'ailleurs. Moi, je le connaissais uniquement par cette chanson. avec une deuxième guitare en arpège au son de harpe, ainsi que le doux et omniprésent violoncelle de toute beauté. Georges Brassens, Les Passantes.
Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime. Pendant quelques instants secrets, à celles qu'on connaît à peine, qu'un destin différent entraîne et qu'on ne retrouve jamais.
Un autre grand chanteur et acteur est décédé, lui, en 1991, il y a exactement 30 ans, et également à l'âge de 70 ans, Yves Montand. Là, j'ai choisi une jolie chanson, tout en nostalgie et surtout très bien chantée, avec des variations vocales extrêmement subtiles, du plus grave au plus aigu. C'est Rose de Picardie.
Ah.
Que cette terre nous semblait vieillot, aujourd'hui il me semble nouveau.
Pour mon troisième, c'est encore un anniversaire. Lui, il est décédé il y a 20 ans, presque jour pour jour. Et je m'étonnais depuis déjà pas mal de temps que nous n'ayons que peu de propositions dans les médias pour nous rappeler l'importance qu'a eu Gilbert Bécaud pendant au moins deux décennies,
Monsieur
les années 50 et 60.
Monsieur 100 000 volts.
Ouais. J'ai choisi un morceau assez peu connu des années 70 qui aborde le sujet des Indiens d'Amérique et qui garde encore à l'écoute aujourd'hui, au niveau musique, toute son originalité et qui me fait penser aux accents pop du groupe Zoo lorsqu'il accompagnait Léo Ferré. L'Indien par Gilbert Bécaud.
1973.
Le premier grand chef de ma tribu s'appelait Aigle Noir. D'un seul coup de poing, il abattait un bison en lui brisant les reins. Et Aigle Noir. Guerre après guerre, les Blancs se sont installés ont changé jusqu'au nom des hommes. C'est ainsi que dans notre village, nous avons eu George Washington, Aigle Noir.
Ouais, c'est effectivement très amérindien comme musique.
Voilà. Et ma quatrième et dernière illustration musicale pour cette émission, lui, il est bien vivant, hein, mais c'est le thème de sa chanson sortie en 1976 avec son album « Longue Distance ». Thème qui automatiquement pour moi est lié en tout point à la chanson précédente de Bécaud, même thème douloureux de l'exode des Indiens d'Amérique. Et puis je l'aime bien cette chanson, il y a un bon solo de guitare, Robert Charlebois avec sa chanson Was It You, l'homme barbu qui vient de l'Est.
Allez, on va faire plaisir à Jean-Jacques, on passe la musique.
L'océan sur des bateaux beaucoup trop grands. Ils sont venus de l'océan avec des yeux couleur de sang.
Je te laisse conclure.
Ah non, je conclue pas. Je conclue pas. C'est vraiment des chansons qui m'ont marqué, moi. Hein, et je veux dire que j'ai essayé de trouver un lien par rapport à cette fameuse année mystère qui est, rappelez-moi,
2021.
Merci, Marc.
On est en plein dedans.
Non, j'aimais bien les thèmes, j'aimais bien la musique, et puis j'aime bien ces chanteurs. Bon, il y en a trois qui sont morts. Hein.
Bon, après, vous avez pu voir qu'il y a quand même des chanteurs qui prennent la relève. Hein. Oui. Monsieur Eddy est toujours là. J'espère qu'il sera là encore bien longtemps. Hein, il peut nous faire cadeau d'autres albums.
Il y a un paquet d'autres chanteurs qui sont bons quand même. Mmh. Que ce soit M, que ce soit Souchon qui est toujours là. Il y a du beau monde encore.
Alors, j'hésitais à passer du Louis Chédid, effectivement. Il est encore très
Louis,
actif sur le
Louis
circuit.
Louis ou M? Louis ou son fils?
Le père, Louis. D'accord. Voilà. On va écouter justement un dernier morceau musical d'un artiste bien plus jeune, mais que vous entendez forcément aussi à la radio. Il s'agit de Stromae avec Santé. C'est de saison, voilà. Il faut qu'on prenne soin de soi, et puis on va aussi penser à ceux qui sont les petites mains des autres et qui méritent aussi toute notre reconnaissance. On se retrouve à tout de suite hein, après Santé de Stromae.
À ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bataire, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête. Toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas? Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Quoi les bonnes manières? Pourquoi je ferais semblant? De toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure je reviens, que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. 3 heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de verre. Appelle-moi ton responsable. Et fais vite, elle pourrait se finir comme ça. Ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Frotter, frotter. Si tu ne me connais pas, brosser, brosser. Tu pourras toujours te brosser, brosser. Si tu ne me respectes pas. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Chauffeur de camion, hôtesse de l'air. Boulanger ou marin pêcheur. Un verre aux champions des pires horaires. Aux jeunes parents bercés par les pleurs. Aux insomniaques de profession. Et tous ceux qui souffrent de peine de cœur. Qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Qui n'ont pas le cœur aux célébrations.
Donc c'était Stromae avec Santé. Effectivement, là ça va être les fêtes très prochainement, en espérant qu'on ne soit pas à nouveau embêté par un sale virus qu'on appelle Covid. On est sûr de pas pouvoir faire les choses en grand, j'ai envie de dire, mais on va justement apprendre à profiter en petit comité, ce sera bien plus sympa je pense. Jean-Jacques, tu as une dernière chronique à nous proposer?
Oui.
Qu'est-ce que tu vas nous raconter avec l'UFC aujourd'hui?
Alors, pour ma chronique UFC que choisir, j'ai choisi pour cette fin d'année un sujet pas trop anxiogène, mais qui aura le mérite d'être au minimum explicatif. la fin du ticket de caisse.
Ouf.
En effet,
faut faire les courses d'abord. Oui.
En 2023, le ticket de caisse devrait disparaître, mais pas complètement. Il deviendra optionnel sur demande express du client. Cette mesure, motivée par une réduction du gaspillage de papier, inquiète certains consommateurs soucieux de suivre leurs comptes ou sécuriser leurs achats. La loi interdira aux commerçants d'imprimer systématiquement un ticket de caisse ou de carte bancaire à compter du 1er janvier 2023. Le décret d'application précisera les exceptions et les alternatives, comme l'envoi par mail. Dès lors, le commerçant ne demandera même plus au client s'il veut un ticket. Il ne le délivrera que si celui-ci en fait la demande explicite. Cette mesure s'inscrit dans les dispositions pour limiter le gaspillage. Les preuves d'achat domestiques représentent en effet des tonnes de papier chaque année pour une utilité assez incertaine. L'impression des tickets consomme également des encres dont la composition n'est pas neutre pour la planète, comme d'ailleurs certains papiers traités spécialement pour cet usage. Certaines enseignes ont déjà anticipé cet usage en demandant au client sa préférence avant de déclencher l'impression. Chez Système U, on observe que près de la moitié d'entre eux s'en passent très bien. Cela représenterait plus de 45 000 km de papier par an, rien que pour ce distributeur. Il est vrai que pour de petits achats comme de la boulangerie ou le café, le ticket reste au comptoir, fini à la poubelle ou pire, sur le trottoir. Cela dit, le ticket est aussi une preuve d'achat pour tenir ses comptes ou faire valoir la garantie.
Oui, tout à fait.
Justement, il y a des exceptions prévues par la loi. Le client aura une trace de facturation pour l'achat de tout produit durable susceptible de défaut. Mais il peut s'agir soit d'un papier, soit d'un envoi par mail. Du coup, on peut s'interroger sur le bénéfice environnement réel, car le numérique comporte aussi une empreinte carbone.
Oui, mais Jean-Jacques, même sans le ticket, il faudra passer à la caisse.
Non, mais le fait est qu'effectivement, ce bout de papier, il a un usage restreint et donc son utilité est modérée. Quand je vais acheter, moi, trois tranches de jambon à côté de chez moi, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un ticket ? En revanche, effectivement, on achète un bien d'équipement, là, ça devient utile d'avoir cette preuve d'achat.
Et puis alors, tu n'as plus les prix individuels collés sur le chose que tu achètes. C'est pareil. Donc, si tu veux faire un petit peu de comparaison entre tel ou tel magasin, est-ce que c'est pas plus cher ici ou là, t'as plus rien pour soutenir ta recherche.
Après, je rejoins Jean-Jacques, hein, effectivement, la pollution numérique, c'est quelque chose aujourd'hui qui est, on va dire, invisible.
C'est ça, on n'en a pas vraiment conscience.
Voilà.
Hein, on en parle. Mais c'est vrai que moi, quand on me le dit, ah oui, c'est vrai. Quand tu ouvres un mail, quand tu envoies un mail et tout ça, il y a quelque chose qui se passe, on sait, ça fait turbiner ailleurs et ça pollue.
À ce propos, il y a quelque chose que je ne supporte pas. Ça pourra faire l'objet d'une prochaine émission, mais les chaînes de messages, c'est insupportable. Fais suivre ce bisou, sinon il t'arrivera des malheurs.
C'est autre chose.
Intéressant, mais moi, personnellement, il y a longtemps que j'en ai pas reçu. T'en reçois encore là ?
On en reçoit encore.
Parce que ça, c'est vrai, il y a une époque. Oui. Oh là là là.
Ça fleurissait. Oui.
Et puis surtout, c'est quand les copains et les copines t'envoient ça, tu te dis, t'as pas envie de le vexer.
Mais je croyais qu'il y avait un poste qui s'appelait indésirable où ça allait directement là-dedans. T'avais même pas à les ouvrir.
C'est peut-être pour ça que moi j'en reçois si peu et que je les ai foutus déjà.
Mais, c'est-à-dire que Josiane, elle a deux dossiers. Elle a désirable et indésirable.
Exact.
C'est pour ça que tu ne reçois pas mes mails.
Non, alors de temps en temps, quand même, je vais ouvrir l'indésirable en me disant, est-ce qu'il ne s'est pas trompé?
Enfin bon. Bon, les amis, on arrive au terme de cette émission. Un grand merci à vous.
Bon, c'était sympa. Hein.
Cette année 2021, on va dire, elle a été compliquée pour nous tous, mais on a toujours eu plaisir à se retrouver et franchement, on espère partager ça avec vous. Je propose qu'on se quitte quand même en célébrant l'anniversaire de Marc, hein, en lui souhaitant un joyeux anniversaire.
Merci, merci.
Je disais, il faut qu'il fasse attention parce qu'il y a plein de gens qui meurent à 70 ans.
Merci, Josiane. Non, mais bon, en tout cas, merci. Merci à vous.
Merci à toi, Marc. Joyeux anniversaire.
Ben,
anniversaire.
Ouais, ben, merci, Marc, d'avoir amené les chocolats aussi. Ouais.
Ben, j'ai amené les chocolats.
Normalement, c'est à nous de lui offrir quelque chose.
Ben, on ne savait pas.
Ah. Non, mais bon, c'est.
T'es tellement discret.
On va se souhaiter de joyeuses fêtes et puis on se retrouve dès le début de l'année prochaine pour une nouvelle émission de Il est l'heure, Monseigneur, sur votre antenne favorite. Radio G 101.5. Merci, Marc.
Merci. Au revoir.
Et joyeux anniversaire. Merci, Josiane.
Salut.
Et merci Jean-Jacques.
Et bonne fête de fin d'année.
À très vite. Prenez soin de vous.
Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes. À bicyclette.
Radio G. 101.5 FM.
Walking in the midnight sun.
1, 2, 1, 2, 1, 2, check this out.